Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, très chers amis de Radio Merguez & Co. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau barbecue vélo. Et on va commencer par la preview de ce Giro, et oui, sixième barbecue vélo ce soir. Votre rendez-vous podcast cycling. Et aujourd'hui, donc oui, nous allons partir vers les routes italiennes du Giro avec le maillot rose à la clé. Un grand plateau autour de ce Giro avec un ultra favori que vous pouvez voir derrière moi, Tadej Pogacar, qui va tenter de remporter ce Giro et de faire le doublé Giro Tour de France. Mais nous n'en sommes pas encore là vu que le Giro vient à peine de commencer. Et avec la victoire aujourd'hui de Jonathan Narvaez qui va empocher le premier maillot rose, nous allons en parler aujourd'hui devant notre équipe d'experts. Et puis bah, je vais commencer par le retour d'un de nos chroniqueurs favoris, monsieur Thierry Ladan, qui va revenir aujourd'hui. Bonsoir mon Thierry.
Bonsoir à tous, un plaisir de revenir faire cette preview du Giro avec une belle première étape aujourd'hui. On va pas spoiler dès le début, mais voilà, une bonne première étape et un beau Giro qui nous attend.
Oui, c'est sûr. Comment ça va?
Ça va bien. Entre deux examens, donc.
Ah super, donc voilà. J'espère que tes partiels se sont bien passés, mon Thierry.
Parfaitement.
Eh ben c'est parfait, je suis content pour toi et encore un plaisir de te retrouver. Et puis nous avons notre petit nouveau là qui revient parmi nous, qui va faire l'émission en entier cette fois-ci parmi nous. Je veux bien sûr parler de notre cher ami Antoine Moyon qui est cette fois-ci dans la nature. Bonsoir mon cher Antoine, autour bonsoir, des oiseaux en cette belle soirée de printemps.
Exactement, on est bien, on est tranquille. On va parler du Giro d'Italia. J'ai très très hâte parce qu'il y a pas mal de choses à dire.
Oui, c'est sûr. Hein, entre un plateau de sprinteurs assez large, des favoris au rendez-vous, un ultra favori, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, qui va tenter de faire le doublé Giro Tour de France. On a hâte de débriefer tout ça avec vous et puis bien sûr avec vous ceux qui nous écoutez en podcast et en direct sur YouTube, sur Twitch ou sur Twitter. Merci à vous d'être présents et il me semble que nous avons déjà notre cher présent la dernière fois pour le Paris Saint-Germain Dortmund, et il est de retour au JCRM. Merci à toi d'être présent parmi nous, et puis encore une fois merci à vous ceux qui nous écoutent. Eh bien au programme, on va commencer par les impressions de chacun sur ce Giro. Comment vous pourriez le décrire en une bonne minute, ce Giro d'Italie? On va commencer par toi, Antoine. Qu'est-ce que tu penses en général du parcours, de ce qui tes attentes sur ce Giro, qui est quand même un programme assez sympathique avec deux contre-la-montre, six étapes de haute montagne, six étapes réservées aux sprinteurs, mais on sait que les étapes réservées aux sprinteurs, avec la fatigue, le Giro qui est une épreuve assez dure, elles sont pas forcément réservées aux sprinteurs. Qu'est-ce que t'attends, toi, de ce barbecue vélo?
Comme tu l'as dit, en vrai, les étapes sont, on va dire, plutôt partagées, on va dire, assez respectivement, donc avec six étapes de sprint. Après, il y a des étapes, donc on a dit, de contre-la-montre, des étapes de montagne. Donc le parcours en soi est très, très intéressant. En plus, on l'a vu dès demain, donc il y aura la première arrivée au sommet. Mais le parcours est super intéressant. Il y a un peu de, c'est un parcours qui convient un peu à tout le monde. Il y aura des profils pour échapper, pour baroudeurs spécialisés en haute montagne, pour puncheurs, pour sprinteurs, pour rouleurs, avec le deuxième chrono qui est vraiment pour les purs spécialistes. Il est tout plat. Donc non, c'est un parcours qui est très ouvert. Et puis après, niveau des attentes, bien sûr, on a Romain Bardet. Bon, ça n'a pas très bien commencé aujourd'hui, mais bon, ça reste une attente encore. Christophe Laporte également pour se relancer de son début de saison un peu compliqué. Julien Alaphilippe pour confirmer entre guillemets son retour il a pu commencer sur le Tour de Romandie. Donc, ouais, il y a pas mal d'attentes. J'ai envie de voir également pour le maillot Chiclamen, comment ça se passera, parce qu'il y a Tim Merlier, pur sprinter, et puis après, il y a des sprinteurs qui passent plutôt bien les bosses avec des Jonathan Milan. Également, Lorenz Pitti, qui peut être une attente côté Groupama, qui a fait une très, très, très bon début de saison. Donc, non, il y a pas mal d'attentes, et puis je trouve un parcours très ouvert. Donc, ça va être super sympa de suivre ces 3 semaines de course.
Merci mon cher Antoine. Alors, et puis on a aussi au JCRM, en un mot, popcorn, on va se régaler. C'est vrai qu'on a hâte de voir ce Giro, même si je pense que le Giro c'est plus pasta, pizza, un petit vin de Toscane aussi, je ne sais jamais. Allez, mon cher Tom, à toi. Enfin, non, Tom, bon. Thierry, pardon, excusez-moi, Thierry.
Là, j'aime bien ce parcours, mais c'est vrai que Popcorn, ça résume un peu, ça résume assez bien, je pense, le parcours en général, parce que je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de 50% des étapes qui pourraient être sur vraiment une course d'un jour. C'est vraiment des épreuves. Enfin, il y a toujours des difficultés à la fin. Il y a très peu d'étapes toutes plates. Donc ouais, ça va être une belle de belles étapes. Je pense qu'on aura du beau spectacle durant ces 21 jours. Mais ouais, franchement, un beau parcours en général. Peut-être une déception du Stelvio, qui est placé un peu n'importe comment, placé à plus de 120 km de l'arrivée. Mais oui, ça va être des étapes où on pourra jamais réellement prédire le vainqueur, à part certaines, je pense. Mais il y a des étapes où ça sera compliqué et à peu près tout le monde pourra arriver. Donc non, ça va être sympa. Et au niveau des attentes, j'attends quand même. Peut-être que Pogacar valide son premier objectif de la saison, le premier de son doublé Giro Tour de France. Ça passe déjà par là et ça passe déjà par assurer ce Giro sur lequel il part ultra favori. Et après j'attends de beaux vainqueurs sur des étapes qui pourraient partir un peu dans tous les sens. Je pense qu'on va avoir de belles surprises. Donc j'attends des vainqueurs qu'on n'attendrait pas, par exemple des Charman, des Narvaez qui reviennent un petit peu qui se montrent vraiment bien sur des étapes qui leur correspondent. Donc voilà un petit peu les attentes sur ce Giro.
D'ailleurs, en parlant de lui, Jonathan Narvaez, écoutez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, vu qu'on s'y est pris un petit peu tard, chez Radio Merguezenko, on s'en excuse, pour faire cette preview, mais on va en profiter, tant qu'à faire, pour débriefer la première étape de ce Giro avec, un vainqueur assez surprise. On l'attendait pas forcément ici, en plus dans cette équipe Ineos avec d'autres leaders comme Geraint Thomas ou un Magnus Sheffield par exemple qui aurait pu bien figurer sur cette étape. Et non, c'est Jonathan Narvaez, belle surprise, qui s'impose devant Maximilian Charman et Tadej Pogacar. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première étape? On va commencer par toi, mon Thierry, sur ta lancée.
Je pense que c'est un peu dans la pensée que je voyais un peu ce Giro, c'est un peu, on peut s'attendre un peu à tout. On a eu une belle échappée qui a duré assez longtemps avec des contres, un Pogacar qui a finalement animé cette étape, la fin d'étape. Et je pense des vainqueurs, alors je vais pas dire surprise parce que Narvaez et Charman sont des coureurs qui ont déjà prouvé qu'ils avaient le niveau pour aller chercher des étapes. Pour bien performer sur des courses d'un jour. Je dirais surtout pour Charman, c'est un coureur sur courant alternatif qui peut autant bien faire que mal faire. Narvaez, c'est un super coureur qui a su augmenter son niveau toujours un peu plus dans les Flandriennes et qui était tombé sur Grand Wevelgem et donc il avait dû prendre une petite pause, mais ouais, c'était un peu dans cet esprit-là. Il y en avait un peu partout. Il y a eu déjà des écarts, et des gros écarts. À partir du 40e, on est quasiment à plus de 2 minutes. Donc, maintenant, une bonne première étape qui a été, je pense qu'en popcorn, c'est vraiment le mot. qui résume ce Giro et aussi un peu cette première étape sur laquelle j'ai pris un peu de plaisir quand même.
Ouais. Antoine, ton avis ?
Ben non. Alors, honnêtement, un très beau final. Bon, les UAE encore une fois, hein, c'est comme le Jumbo, hein, quand ils veulent l'étape, ils le font savoir. Avec toute l'équipe UAE là, qui s'est mis à rouler, à contrôler. Donc, moi, j'étais quand même super étonné quand même de Narvaez. Alors oui, il a fait un super début de saison, pardon. Et puis là, oui, il a plein de qualités et tout, mais quand même, c'était le seul hein, à rester dans la roue de Pogacar, parce que Charman, qui a basculé en troisième position, n'était pas dans sa roue. Il avait quelques petites secondes d'écart. Donc Narvaez vraiment très impressionné. Je le voyais quand j'ai vu Pogacar relancer, je me suis dit bon, Pogacar va s'envoler, il va partir tout seul. Non, Narvaez a réussi à s'accrocher dans sa roue. Donc très impressionné de la part de Narvaez, parce que bon, Pogacar quand même était le seul avec Narvaez. Ils étaient tous les deux. Donc non, très très exceptionnelle performance de Narvaez, même pour moi, parce que vraiment bon, c'était le seul. Et puis après, content également, on a pu déjà apercevoir nos Français de ce Giro à l'avant, ouais. Avec Luc Barré, Lilian Calmejane. Donc non, c'était sympa également de voir ça. Et puis après, côté français, bon, pour cette première étape, ça va, on a la cinquième place, je crois. Alors c'est Alex Godin, je crois, qui finit quatrième. Donc, c'est une très très belle performance de sa part. Après, c'est sûr que ceux qu'on attendait réellement de cette étape, on peut être un petit peu déçu. Bardet, bon, qui n'a pas été réellement présent sur cette étape-là. La Philippe qui finit dans le top 20, donc ça reste plutôt correct. Mais non, une belle étape, franchement, et j'ai surtout hâte d'être à demain, parce que demain, ça va être vraiment première arrivée au sommet. Mais voilà, Pogacar, moi, je pensais vraiment à la victoire de Pogacar, mais qui finit troisième. Donc non, une victoire un petit peu surprise de Narvaez, mais autrement, vraiment un très, très beau final de première étape.
Oui, t'as entièrement raison. Ouais, gros final et puis des favoris déjà piégés. Alors, on a parlé. Oui. Donc, alors on peut faire déjà un petit état des lieux. Alors, on va commencer par Nairo Quintana, 1:07. Romain Bardet, 1:07. Timon Arensman, 2:27 de retard.
C'est énorme. C'est énorme.
C'est ouais. Oui, voilà, c'est déjà des gros écarts. Alors, on en reparlera plus tard, mais on sait bien Romain Bardet plus à l'aise sur une deuxième semaine, mais c'est jamais très bon de prendre déjà un peu de retard, Thierry, comme ça, dès le début du Giro, dès le début d'un grand tour.
C'est vrai que c'est jamais bon de prendre de pas être en confiance déjà dès le début d'un grand tour. Surtout, demain, ça sera aussi animé avec une arrivée au sommet, donc c'est vrai que au niveau de la confiance c'est moins bon. Maintenant c'est embêtant. Maintenant c'est pas rédhibitoire non plus. Ça c'est 57 secondes, mais comme on dit, je pense que sur ce Giro il y a beaucoup d'étapes où il pourrait y avoir beaucoup d'écarts, surtout sur des étapes où on pourrait peut-être moins se douter, parce que ça va vite s'enchaîner. Il y a beaucoup d'enchaînements assez compliqués. Donc voilà, 57 secondes, c'est embêtant. Enfin, 1:07 au général, c'est embêtant. Maintenant, c'est pas rédhibitoire, c'est pas non plus très inquiétant. Mais voilà, faudra surveiller demain et faudra voir demain ce que ça donne.
Et oui, demain déjà arrivé au sommet, on en reparlera un petit peu plus tard, dans ce live. Et nous allons saluer Laurent Brooks qui nous dit Pogacar sera dur à battre sur ce Giro. Eh bien, tu me tends une très belle perche, Laurent. Vu que c'est notre premier sujet sur cette semaine, Pogacar est-il battable sur ce Giro? Le général peut-il lui échapper? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Antoine?
Alors, honnêtement, moi je pense pas. Moi je pense pas. Il a quand même montré encore une fois aujourd'hui que ça reste quand même le plus fort. Je vois pas Narvaez en tout cas durant les trois semaines rivaliser avec lui, ni Maxime Sherman. Donc pour moi ça reste parmi vraiment les favoris de ce Giro, c'est celui qui était quand même un cran au-dessus. Après, comme on peut le voir, il y a des équipes qui partent de ce Giro avec des cartes. Plusieurs cartes, donc par exemple je pense à la Bahreïn là, qui pourra jouer sur Caruso Tiberi, donc peut-être essayer de jouer sur ça pour plusieurs équipes. On pense également à Thomas et Timen Arensman, voilà, faire échapper Timen Arensman, faire travailler l'équipe UAE, attaquer derrière. Mais parce que l'équipe UAE en haute montagne, bon, c'est des bons noms, hein, c'est des bons coureurs. Mais peut-être qu'il peut faire quelque chose sur ça. Contrairement au Tour de France, où là, l'équipe en haute montagne pour Pogacar sera quand même très, très forte. Mais là, il y a peut-être quelque chose à jouer sur ça. Mais autrement, bah, je vois pas où on peut le battre, quoi. Au niveau punch, c'est peut-être même le plus, bah, c'est plus fort, peut-être, de, bah, c'est même, peut-être même le plus fort de ce Giro. Haute montagne, je vois pas plus que ça. Je vois pas faire une fringale, hein. Il a quand même 25 ans, il commence à avoir de l'expérience également. Niveau chrono, il est très, très fort. Donc, est-il battable? Pour moi, non. Vu la start list de ce Giro, pour moi, le seul qui peut le battre actuellement, c'est Vingegaard. Voilà. Ça, c'est mon avis. Je vois pas un Thomas rivaliser. Je vois pas un Daniel Felipe Martinez, je vois pas un Caruso, je vois pas un Tiberi. Non, pour moi, il est au-dessus du lot sur ce Giro.
Oui, hein, c'est sûr. Hein. Et puis il nous l'a montré là. Il est déjà devant, déjà en attaque.
Ouais.
Et puis même sur les courses, ces courses de préparation, il avait l'air au-dessus de tout le monde. Tom, quelque chose à rajouter?
Non, bah, je suis quand même d'accord. Hein. Ça sera très très compliqué de le battre. Ce serait peut-être même pas en haute montagne, mais il pourrait faire encore plus de différence. Et sur les étapes, je pense notamment à l'étape 6, où c'est très très vallonné, où il y aura du pourcentage sur des plus petites distances. C'est là où il pourra surtout faire très mal à des purs grimpeurs. Et c'est peut-être limite ça qui lui donne encore plus de crédibilité à augmenter son leadership, d'ailleurs, mais son statut de favori, d'extrême favori sur ce Giro.
Effectivement, je pense que Pogacar, c'est celui qui nous a montré d'assurance, de signes rassurants. Et puis voilà, hein, ça reste Pogacar, le talent, ses qualités, que ça soit en montagne, sur le punch, même sur le plat, et puis en contre-la-montre. Il faut rappeler que sur ce parcours, il y a deux contre-la-montre, hein, on va en parler un petit peu plus tard du parcours, mais voilà, je pense que Pogacar reste l'unique grandissime favori, et que derrière, alors va falloir peut-être pas être résigné, vu que on ne sait jamais. On avait vu Remco Evenepoel qui avait abandonné dès la 9e étape, hein, maladie, chute, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, mais ce qu'on ne lui cède pas d'ailleurs à Pogacar, mais voilà, ça reste quand même abordable s'il vient à y avoir un fait de course, une fringale, quelque chose, ça peut arriver, mais en tout cas, pour le moment, je ne vois pas Pogacar perdre ce Giro.
Ouais.
Et puis, autour de Pogacar, il y aura quand même quelques prétendants qui vont tenter de bien figurer et voir peut-être jouer que le podium. Alors, on va parler un petit peu de ses concurrents un tout petit peu plus tard, mais déjà, est-ce que, pour vous, les concurrents à Pogacar ont-ils une chance? Est-ce qu'ils doivent se contenter de jouer le podium et laisser Pogacar, ou bien essayer quand même de le suivre, faire quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, mon cher Tom?
Je pense pas que quand tu viens avec une préparation sur un grand tour, je pense pas que tu vas te contenter et te dire, te contenter d'une deuxième place, d'un podium. Pour moi, les coureurs vont pas se dire c'est Pogacar, je vais pas y aller. Voilà, il y aura toujours cet esprit compétitif. Il y a quand même des préparations. Les coureurs qui sont, on va dire plus outsiders, du moins moins favoris, restent quand même de très bons coureurs. Donc partir avec cette mentalité de Pogacar de toute façon a gagné, je pense qu'aucun partira comme ça. Je pense qu'ils estiment tous avoir leur chance, même si c'est peut-être plus moindre que s'il n'y avait pas Pogacar. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais Pogacar commence à gratter seconde après seconde, là forcément voilà, ils se battront entre eux un peu plus derrière. Mais tant que il n'y a pas 2, 3, 4, 5 minutes, pour moi, voilà, Pogacar, faut le suivre, sans se mettre dans le rouge, bien évidemment. Mais voilà, faut pas partir avec cette mentalité de toute façon, il est trop fort. Donc on ne suivra pas. Ils ont quand même une préparation qui est énorme. Pour certains, c'est vraiment leur objectif de l'année. Donc voilà, j'espère du moins qu'il y en a qui ne partent pas avec cette mentalité-là, de se dire de toute façon Pogacar est trop fort et on ne suivra pas.
Alors, il y a OJCRM aussi qui nous fait une remarque plutôt pertinente, c'est que, alors il vient avec une sacrée équipe. Alors on va faire un petit tour des forces en présence côté UAE et côté équipe. Mais moi je trouve que Pogacar est venu quand même avec une pas la dream team, on va dire. Enfin, il a l'équipe pour l'accompagner vers la victoire sur le Giro, mais en haute montagne quand même, ça reste pas limité, mais son équipe reste je dirais pas limité, mais sauf que il peut vite quand même se retrouver seul. Pogacar, je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Thierry.
Ah, je suis d'accord. Enfin, en fait, il faudrait surtout pas que Maika, on va dire que vraiment ses principaux, on va dire coéquipiers de luxe, hein, ses principaux, c'est quoi qui vont l'accompagner loin dans les montées. Il faudrait surtout pas que Maika et Groschartner tombent ou autre, enfin, ou soient décrochés assez vite, parce que c'est vrai qu'ils se retrouvaient quand même assez vite esselés. On a donné un peu plus de coéquipiers, on a fait venir un Juan Sebastian Molano, par exemple. Ce qui est bien d'un côté d'équipe en général, de pouvoir ramener un sprinter. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas la dream team, on va dire, en faisant venir Soler, en faisant venir Almeida, en faisant venir Vine, enfin, et autres. C'est vrai que sur le papier, quand on connaît l'effectif du AE, il y a mieux. Maintenant, ça reste quand même avec des, peut-être sans avoir les coéquipiers de luxe plus. Ça reste quand même une belle équipe qui saura confronter les autres assez facilement, mais qui saura faire égal, voire mieux, avec les peut-être le deuxième meilleur effectif derrière. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, comme sur le Tour de France, on a pu avoir avec énormément de coéquipiers de luxe à ses côtés.
Alors oui, c'est sûr, on va, c'est pas peut-être la plus grosse équipe, mais il faut pas oublier que Pogacar a un talent monstrueux aussi, qu'il est très bien capable de s'en sortir tout seul, je pense. Alors maintenant, on va faire un petit tour des coureurs qui peuvent espérer faire un bon classement général autour de Pogacar. Alors, on a bien sûr Pogacar qui est le grand favori pour remporter ce Giro, et puis on a la présence de O'Connor, Caruso, Thomas, Bardet, à ne pas oublier aussi Ainer Rubio, qui peut bien figurer, Daniel Felipe Martinez, Ken Oosterbroek, d'ailleurs, c'est OJCRM qui nous en parle, c'est de Ken Oosterbroek, je vais y arriver, excusez-moi. Pour moi, surtout pas jouer la quatrième ou la cinquième place, et essayer que deux équipes, genre Bahrain, Martinez et Visma pour Oosterbroek, pour essayer de contrer Poggi et UAE. Oui, ça peut être une stratégie, ça peut être possible, s'entendre entre équipes. Et puis, on peut encore noter la présence de Juan Pedro Lopez, etc. Voilà. Quand même un bon plateau. Pour vous, quels seraient les deux coureurs qui ont le plus de chances d'être sur le podium? Alors moi, je vais vous dire mon podium. Moi, je mettrais bien Romain Bardet en 3, parce qu'il arrivera, je pense qu'il aura du mal à finir deuxième, parce qu'il y a les deux contre la montre, et le contre la montre, c'est pas un exercice qui lui réussit énormément. Et puis, je vois bien Ben O'Connor surfer sur cette bonne lancée de l'équipe AG2R Citroën. En plus, il a du beau monde autour de lui, par les deux frères Paré-Peintre qui peuvent l'aider en montagne. Donc, je vois bien O'Connor bien figuré, et en troisième position, Romain Bardet. Antoine, quel serait ton podium, toi?
Alors moi, Bardet 3. Alors c'est optimiste, hein. Mais personnellement, non. Moi, je pense Bardet top 5, oui. Top 3, non. Et puis alors moi, je pense, je vois bien Geraint Thomas sur le podium. Alors c'est peut-être bizarre, dit comme ça, 37 ans, il commence un peu à vieillir. Mais je me dis aujourd'hui, il a fait une belle prestation. Il finit parmi le groupe des leaders. Donc voilà, moi je mettrais Geraint Thomas en 3. Et après en 2. Alors ça peut peut-être paraître un peu surprenant, mais je partirais peut-être sur un Daniel Felipe Martinez. Je me dis pourquoi pas, dans l'exercice du chrono, il est pas si mauvais que ça. Alors c'est peut-être un peu voilà audacieux dit comme ça, mais moi je vois bien Daniel Felipe Martinez faire un bon Giro. Également ce sera ça peut-être également sa chance un peu de montrer son plein potentiel et vraiment de confirmer parce que bah, avec l'arrivée de Roglic maintenant pour lui avoir ce rôle de leader ça sera très compliqué donc voilà montrer que il a sa place dans son effectif et moi je dois bien vraiment faire un bon Giro et puis alors la prononciation je l'ai pas encore exacte mais il sera aux côtés du jeune alors je crois que c'est Lipowicz un truc quelque chose comme ça qui a fait un superbe qui a fait une très belle prestation sur la dernière course par étape. Donc non, moi je pense que Daniel Felipe Martinez fera un très bon Giro. Alors s'il fera pas deux, peut-être trois. Mais voilà, c'est mon podium.
Très bien. Thierry ?
Moi je vais mettre Geraint Thomas deuxième parce que je pense que j'ai jamais envie de l'enterrer. L'année dernière, je l'avais enterré un peu vite. Et puis finalement, bah, voilà.
Il aurait pu le gagner, quoi, ce
Giro. Ouais, c'est ça. Et je l'avais peut-être peut-être enterré un peu vite. Je vais pas faire la même erreur cette fois-ci. Je pense qu'il y a une bonne start list. Maintenant, quand on compte les coureurs qui performent beaucoup sur des courses de 3 semaines, eh ben, on se retrouve avec peut-être plus énormément de coureurs. Et je pense que, bah, voilà, c'est typiquement le coureur qui, je pense, gérera le mieux un grand tour parce que ben il y a l'expérience vainqueur du Tour de France et autres donc voilà je le mets deuxième confiance en l'anglais j'espère qu'il me fera pas mentir et en troisième je vais mettre Ben O'Connor je pense qu'il est vraiment sur une bonne dynamique au même titre que son équipe et qui va monter en puissance au fur et à mesure donc ouais, je vais mettre Ben O'Connor en troisième.
Ok, merci messieurs. Maintenant, les sprinteurs. Gros plateau de sprinteurs sur ce Giro. Donc moi, comme je pense qui est le favori pour remporter le Chiclamen, Olaf Koij. Mais attention, il y a du monde. Jonathan Milan, Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Kaden Grobs. Caleb Ewan, Molano côté UAE, Alberto Dainese, Simone Consoni, Matteo Trentin chez Tudor cette équipe Tudor d'ailleurs qui monte en puissance, hein, qui fait de très belles prestations, Binyam Guermet bien sûr, alors qu'on voit un petit peu moins mais à ne pas enterrer, il a déjà gagné une étape sur le Giro. Et peut-être aussi la bonne surprise qui pourrait être Laurens Pitti. Alors donc Olaf Koij est donné comme le grand favori pour remporter ce Giro, ce maillot Chiclamen. Mais le problème c'est que on l'a vu Olaf Koij par exemple sur Paris-Nice quand ça commence à grimper fort. Bah, c'est un sprinter, mais sauf qu'il y a certains sprinters qui passent un petit peu mieux les bosses. Moi, je penserais à un Jonathan Milan qui n'a pas le profil d'un sprinter puncher, mais qui passe peut-être légèrement mieux les bosses qu'un Olaf Koij. Donc, et puis il a déjà remporté ce maillot de Chiclamen. Donc, moi, je vois bien Jonathan Milan en plus qui sera bien accompagné par son équipe Lidl Trek. Moi, je verrais bien Jonathan Milan remporter ce maillot de Chiclamen. Thierry.
Moi, je vais partir un peu plus sur Tim Merlier. Peut-être pas le meilleur pour passer les bosses, même si je pense que c'est loin d'être le pire. Surtout quand on voit, par exemple, qu'il y a un Fabio Jakobsen qui, ouais, dès que ça monte, est vraiment en difficulté. Il a aussi vraiment une belle équipe autour de lui. Lamperti, Seri, Vandenbergue. Donc pour l'emmener, ça va être sympa aussi. Donc ouais, je vais mettre Merlier, mais c'est vrai que de toute façon, c'est quand même un sacré chantier ce plateau de sprinter. Il y en a énormément. Il y a Milan, il y a Gaviria, il y a Coy, il y a Ethan Vernon, il y a Guirmay, il y a Pitti, enfin, il y a quasiment chaque équipe qui a un peu une carte à jouer au sprint, donc ce sera compliqué. Et puis c'est aussi compliqué de dire, mais ça dépendra aussi de l'envie des baroudeurs, l'envie des punchers d'animer les étapes, parce qu'il y a des étapes qui pourraient autant jouer dans un petit groupe de 4, 5, 6 qui part dans une bosse à 2-3 km de l'arrivée, comme ça pourrait jouer au sprint, comme ça pourrait se partir avec un homme tout seul qui viendrait l'emporter. Donc ça pourrait aussi désorganiser un peu ce maillot de cyclamen et peut-être avoir une belle surprise finalement en maillot de cyclamen à voir. Enfin, tout dépend franchement du déroulé et aussi du bon vouloir, je pense, de Tadej Pogacar, parce que rien que ça, encore aujourd'hui. Il vient finir troisième dans un sprint à 3. Alors je sais pas s'il y avait beaucoup de points distribués à l'arrivée. Non, ça va.
Non,
voilà, il a pris 12 points, ça va. Mais on sait jamais. On sait que je me rappelle d'une étape sur le Tour de France ou sur le début du Tour de France l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, où il avait pas hésité à faire rouler ses coéquipiers sur une étape un peu indécise. Et était parti gagner devant Matthews, devant d'autres coureurs, et il nous avait bien étonné. Et si dans une configuration comme celle-là, dans une configuration où je vais dire un peu, il s'amuse parce qu'il a du temps d'avance, parce que il se dit qu'il sera plus fort, ça pourrait être pas si déconnant que ça, même si au fond moi j'ai un peu de mal à y croire. Mais voilà, je préfère quand même avancer un peu cette hypothèse de Pogacar qui pourrait, moins fit Pogacar, mais d'un coureur pas attendu qui pourrait aller chercher ce match quand même.
Oui, je pense aussi. Alors maintenant, on va juste faire un petit point sur le parcours. Donc il y a six occasions pour les sprinteurs de briller, mais comme tu l'as dit, il n'est pas exclu que certaines étapes peuvent être perturbés par le profil. Et puis on peut penser rien qu'à l'étape numéro 3, ce qui aura lieu après l'arrivée au sommet de demain. Rien que là, certains sprinteurs pourraient avoir du mal à récupérer et louper l'occasion de remporter une étape. Donc 6 opportunités, mais attention à ne pas les gâcher. Et puis surtout, ça va dépendre du bon vouloir d'un Pogacar ou des baroudeurs aussi qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Et d'ailleurs, c'est notre prochain sujet: quels baroudeurs pourront tirer leur épingle du jeu? Donc on a quand même un beau plateau de baroudeurs qui sont présents. Alors déjà, rien que côté français, alors on va refaire un point sur la Startlist, mais il y a quand même du beau monde. Les frères Paré-Peintre, très en forme. On peut penser à un Damiano Caruso qui, en quête d'un, qui si un mauvais classement général, qui pourrait se rabattre sur les étapes. On peut penser aussi à Alex Baudouin, là, qui vient de faire une belle étape aujourd'hui, qui finit quatrième. Lilian Calmejean également, qui s'est bien mise à l'heure. Michael Woods encore aussi. Quel coureur où tu verrais, mon Thierry, tirer son épingle du jeu dans ces étapes dites de transition, et même quelques étapes qui pourraient être réservées au coureur du classement général ou au puncher, mais certaines choses peuvent faire que elles peuvent être données pour les baroudeurs. Quel coureur tu verrais?
Moi, j'ai vraiment deux noms qui me sautent aux yeux. Je mettrais Andrea Bagioli et je mettrais Quinten Remans. Je pense que c'est deux coureurs qui sur des étapes pour baroudeurs sont clairement cités parmi les favoris, parce que bah, voilà, c'est des coureurs qui... J'avais parlé un peu de profil de course d'un jour, et je pense que c'est des coureurs qui pourraient performer sur ces types de profils. Et donc je pense qu'ils seront souvent cités, du moins comme peut-être surprise quand on s'attendrait à un sprint massif, ou alors du moins sur des étapes qui seront plus vallonnées. Donc pour moi, ce seraient vraiment les deux noms que je ressortirais parmi bon, tant de noms et tant de coureurs qui pourraient aussi se mêler à ces étapes et pour aller chercher la victoire.
Moi de mon côté, je vois quand même du beau monde. Alors il y a un nom qui me tue en lupine, et puis on l'a déjà dit là juste avant en citant les noms. C'est Michael Woods. Michael Woods, je le vois bien dans ce rôle de baroudeur, en chasseur d'étape. Je vois bien Michael Woods se tirer son épingle du jeu, et puis aussi un coureur comme Aurélien Paré-Peintre, très en forme, vainqueur d'étape sur le Tour de Romandie, il me semble, Aurélien Paré-Peintre. Où je dois me tromper, ça peut être sur une autre course, mais il fait quand même un sacré début de saison avec son frère. Et puis un autre coureur encore que je verrais bien, c'est Christophe Laporte, qui n'aura pas ce rôle comme il a d'habitude, entre guillemets, d'homme à tout faire, comme un Wout van Aert par exemple, qui faisait le train pour UAE. Pour Visma, pardon. Et donc, moi, je verrais bien Christophe Laporte remporter une étape. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est vrai que il sera plus libre. En tout cas, je pense Christophe Laporte, il sera largement plus libre que comme on a pu le voir sur un Tour de France l'année dernière, par exemple. Voilà, il aura plus sa carte. Donc, ça sera intéressant de le voir, même si c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Voilà, il y a eu des périodes de moins bien, surtout sur ce début de saison. Mais ouais, ça pourrait surtout le relancer. Il y a des étapes qui lui correspondent bien. Donc ouais, franchement, ça va être une très belle carte française, surtout.
Et puis les Français, parlons-en. Alors il y a quand même un sacré plateau de Français qui sont venus se confronter au Giro. Alors donc Christophe Laporte qui sera présent lors de ce Giro. Donc classement général, on en a parlé. Romain Bardet, la plus grande chance. Donc Lilian Calmejean, qui s'est déjà mis un petit peu en valeur. Les frères Paré-Peintre. On a aussi côté Cofidis, Thomas Champion, Nicolas Prudhomme, Benjamin Thomas aussi qui peut tirer son épingle du jeu. On peut aussi un Louis Barré par exemple côté Arkea, Ryu Alan aussi son premier grand tour, et puis un coureur bien sûr, comment ne pas le citer, c'est Julien Alaphilippe bien sûr. Moi en tout cas j'en attends beaucoup de Julien, parce que il a l'air de remarcher. S'il va sur ce Giro, c'est qu'il est sûr de pouvoir en tout cas tenter quelque chose. Thierry, un avis sur Julien?
Yes, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, en fait, ça me fait mal de le dire, mais en fait, je vais pas dire que j'en attends. Alors, je vais dire j'en attends rien, mais pas dans le sens où j'attends pas qu'il performe. J'espère qu'il va performer. Maintenant, j'en attends plus rien au fond de moi, dans le sens où il a déjà beaucoup donné. Et j'ai plus envie qu'il vienne avec une sorte de pression à se dire voilà, faut gagner, faut lui mettre, je vais pas dire une pression en tant que favori sur ces étapes, mais voilà, on en attend forcément, parce que ben voilà, il nous donne toujours un espoir, il y a une lueur, il y a une lumière qui nous dit que ben voilà, on espère le retrouver au plus haut niveau. Aujourd'hui ça a été plutôt pas mal, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir d'attente trop haute. Si déjà il peut se montrer, si déjà il peut avoir les jambes dans peut-être la quête d'un nouveau défi l'année prochaine, ben voilà, déjà si c'est vraiment une première étape pour le futur, voilà, s'il y a une victoire en plus, ça sera bien, ça sera super, je pense qu'on sera tous contents, parce que Julien, tu deviens un super coureur, hein, quoi.
Puis,
ça
puis
fait
pour
rêver.
La confiance aussi, pour la confiance, Julien.
C'est ça, c'est ça. Bah, ça peut débloquer quelque chose qui pourra aussi lui permettre peut-être déjà d'avoir d'autres opportunités pour l'année prochaine, au-delà de, on a entendu Cofidis, on a entendu Total Energy, on a aussi entendu une prolongation chez Quickstep, mais ça pourrait aussi le débloquer quelque chose, un peu faire une rupture avec ce qu'on pourrait appeler de la malchance, ce qu'on pourrait appeler une méforme, même si je pense pas que ce soit vraiment de la méforme, mais voilà, je pense aussi un problème de confiance, que ce soit sur sportif, je vais pas dire dans le personnel, mais c'est plus dans l'équipe où ben voilà, on sait qu'il a un directeur d'équipe qui n'est pas facile à vivre non plus. Donc voilà, c'est vrai que s'il gagne, ça sera super. C'est une des meilleures cartes françaises, mais voilà, je veux pas placer la barre trop haute. J'ai pas envie d'être déçu et pas envie non plus qu'il parte avec cette pression de dire voilà, je dois gagner, je dois performer. Voilà, si déjà il peut se faire plaisir, déjà un tremplin pour le futur, ça sera déjà super et on verra ce que donnera la suite.
Quelque chose d'exceptionnel aussi, c'est que pour sa première participation, s'il vient à remporter une étape, d'étape sur les trois grands tours, alors avec déjà son palmarès immense, Julien Alaphilippe, qui viendrait se compléter, ça pourrait être franchement une belle chose de le voir réussir à compléter ce palmarès comme ça. Et puis Antoine, moi je vais te reposer la même question qu'à Thierry. Quels sont tes favoris pour remporter ces étapes pour qualifier pour baroudeur? Il y en a quelques-unes. Il y a des belles occasions. Pour les baroudeurs. Il y en a beaucoup. Pour toi, qui va performer? Qui va profiter de ces occasions? Antoine? Ah, je crois que nous avons perdu Antoine. Est-ce que tu nous entends? Ah non, nous avons perdu Antoine. Bon, vous nous excuserez, hein, ces petits soucis techniques. Et ben, on va passer à la suite. On va continuer avec maintenant les pièges qui peuvent apparaître sur ce Giro. Et alors, je vais pas commencer par le plus évident, mais déjà les étapes pièges entre guillemets, le contre-la-montre. Déjà, il y a deux contre-la-montre au programme. En tout, ça fait à peu près 70 km, 71 km de chrono, avec le premier qui s'élance, la septième étape, qui s'élancera de Folgino jusqu'à Pegoria Tudor. Le profil, on a un parcours plutôt un parcours assez plat jusqu'au 30 pendant les 31 premiers kilomètres, et puis après une montée vers Piegura qui pourrait convenir parfaitement à Tadej Pogacar, qui pourrait déjà assevir sa domination sur ce Giro.
Ouais, c'est clair que ce chrono, alors déjà, pour moi, 70 km de chrono, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Je trouve que ça fait beaucoup. C'est un exercice qui est vraiment crucial dans un classement général et qui élimine tellement de coureurs que mettre 70 km, ça, je vais pas dire que ça nous casse des batailles, mais je pense que ça nous casse parfois des petites confrontations qui pour lesquels on a envie, pour lesquels on suit vélo.
Après, finalement... Vas-y, je t'en prie.
Finalement, je pense qu'un chrono comme ça, c'est typiquement le genre de chose qui pourrait vraiment... qui donnerait encore plus de crédibilité à Pogacar, pardon, qui donnerait plus de crédibilité à Pogacar pour remporter ce Giro avec un temps peut-être record... Parce que ça lui convient, finalement, ça lui convient ce genre d'effort. Il a déjà montré qu'il était fort sur ces contre-la-montre, qu'il était fort aussi sur des contre-la-montre longs. Et en plus cette bosse sur laquelle il pourrait en plus accroître son avance. Et quand on sait que sur le deuxième il y a encore 30 km, c'est des chronos qui pour moi avantagent vraiment Pogacar par rapport à d'autres. Si on compare à Ben O'Connor, par exemple, qui a eu des améliorations, mais Pogacar et O'Connor sur contre-la-montre, on n'est clairement pas dans la même cour. Donc, voilà, c'est pour moi, il y a trop de kilomètres. Ça, c'était pas forcément utile, je pense, de mettre autant. Parce que ça casse tellement de leaders dans une préparation. Ça fait partie du jeu. Mais autant, bon, je vois peut-être pas forcément intérêt. Après, ça reste mon avis, mais.
Je te rejoindrai sur le fait que deux gros chronos comme ça de 40 et 30 km, c'est beaucoup. Après, la bosse dans le final, c'est pas plutôt une mauvaise chose, vu que certains coureurs autres que Pogacar, bah, par exemple, pour la victoire d'étape, en tout cas, Philippe Ogana est plutôt à l'aise dans cet exercice du contre-la-montre classique et avec une bosse. Je dirais pas que c'est le plus avantagé, mais ça reste quand même pas mal, ça peut le faire. Et puis moi je pense que des coureurs comme Garin Thomas ou Timen Arensman bah peuvent gagner du temps sur cet exercice. Alors peut-être pas jusqu'à concurrencer Pogacar, mais voilà, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait du contre-la-montre. Mais et d'autant plus qu'un coureur, bah maintenant, ça doit être le plus complet possible. C'est aussi ça, remporter un classement général, c'est être le plus constant dans tous les exercices. Après, trop d'un coup comme ça, 70 km concentrés en 40 et 30 km de contre-la-montre, ça fait beaucoup. Et surtout en peu de temps, entre la 7e et la 14e étape, ça fait beaucoup. Et puis alors le deuxième piège que j'ai plutôt identifié sur ce Giro à surtout faire très attention, c'est la sixième étape juste avant le contre-la-montre, l'étape qui ralliera, alors si mes souvenirs sont bons, qui ralliera Tello La Puccini et Rapolano Terme. Et dans cette étape, nous aurons le droit à des chemins blancs comme sur l'Estrade Bianche, et donc attention aux chutes et puis surtout aux différences, hein. Des différences peuvent être faites sur cette étape. Qu'est-ce que tu en penses, mon Thierry? Est-ce que c'est une bonne chose de voir ça sur ce Giro, ou c'est bon pour le spectacle, ou les coureurs n'avaient pas forcément besoin de ça dans un parcours déjà assez difficile avec des grosses étapes de montagne? Et est-ce que ça peut peut-être même tuer le spectacle?
En fait, quand on voit tous les pièges, en fait, finalement, c'est des pièges pour quasiment tout le monde, sauf Pogacar, en fait. Parce que le chrono, il sera parmi les favoris. Sur une étape avec des chemins empruntés comme sur l'Estrade, on rappelle qu'il est parti à plus de 80 km sur l'Estrade, donc c'est clairement quelque chose qui ne fait pas peur, c'est un vainqueur du Tour des Flandres.
Les chemins blancs en plus sont assez espacés en plus, les chemins de terre.
C'est ça, donc en fait c'est des pièges pour des coureurs, je veux dire par exemple pour O'Connor, ça pourrait être un piège, pour Uytebroek, ça pourrait être un piège. Et c'est justement quand je disais c'est peut-être pas dans en montagne sur les arrivées au sommet que Pogacar gagnera plus de temps. C'est typiquement sur ce type d'étape où il pourrait y avoir les plus gros écarts entre un Pogacar, un Uytebroek, un Pogacar et un O'Connor. C'est peut-être là où vraiment, là on pourra dire, et surtout sur l'enchaînement, on se dira, est-ce que c'était vraiment nécessaire sur une concurrence qui, alors j'ai pas envie de dire faible, je veux dire moins fort que Pogacar, sur des parcours qui lui correspondent, est-ce que c'était vraiment nécessaire? On pourrait vraiment avoir des regrets en fait après cette première semaine, parce que quand on regarde un petit peu déjà aujourd'hui, Pogacar a pris du temps sur une étape comme celle-ci, il peut reprendre beaucoup de temps sur le chronomètre, il peut prendre encore beaucoup de temps, et moi j'ai peur que la semaine prochaine on se dise
hop, Giro, il est déjà gagné. Oui.
À dans 14 jours pour voir qui sera deuxième et troisième, quoi.
C'est ce qu'on s'était un petit peu dit avec Remco Evenepoel l'année dernière, avant son abandon. Il remporte deux étapes, il écrase le contre-la-montre de la neuvième étape. Ça peut peut-être faire pareil avec Pogacar, et puis d'autant plus que ses adversaires, ont, comment dire, des équipes assez limitées. Pogacar, lui, il a pas besoin d'une grosse équipe autour de lui pour, vu la concurrence en tout cas, pour gagner le Giro, à part une équipe comme comme Ineos avec Foss, Ghana, Narvaez, Sheffield, Ben Swift et puis Ghana qui peuvent cadenasser la course, bah je vois pas d'autres équipes en capacité de s'allier et puis de cadenasser la course comme ça. Donc et encore un élément aussi qui peut être piégeux, c'est aussi l'enchaînement des étapes, parce que de la cinquième à la dixième étape, alors il y aura le jour de repos entre, mais c'est des étapes soit piégeuses avec le contre-la-montre et les chemins blancs, ou bien des étapes de montagne arrivées au sommet. Et puis même la première semaine est assez condensée, ce qui convient parfaitement à Pogacar.
Ouais, c'est vrai que ça lui convient. Après, attention à pas être trop gourmand non plus, à pas vouloir assommer le Giro en première semaine et derrière faire une fringale. Alors c'est vrai que bon, Pogacar est pas vraiment du genre, mais l'année dernière ça y est arrivé et donc voilà, ça doit quand même lui mettre une petite alarme où voilà, se dire est-ce que voilà, il veut vraiment gagner autant de temps, est-ce que voilà, il met beaucoup dans cette première semaine et bah, après bah, derrière ce serait terrible de dire ça, mais il s'amuse. Est-ce que derrière, bah voilà, il s'amuse un peu plus. Voilà, ça sera aussi intéressant de voir comment il va gérer. Est-ce que sur une étape avec des chemins blancs, et ben il essaiera de faire plus la différence que demain, par exemple. Est-ce que demain, ben il se dira, voilà, je vais peut-être pas faire la différence là, mais je la ferai sur cette sixième étape, je la ferai en chrono. Et on verra après où est-ce que j'en suis. Ça pourrait aussi être une façon d'aborder ce Giro pour le Slovène.
Ouais, c'est sûr. Et puis Pogacar aussi, il a peut-être appris aussi de ses erreurs entre guillemets. Il a endossé de l'expérience. Donc encore une fois, comme on disait, pas de surprise. Non. Je pense que le général, bah, comme on a dit, il n'est pas joué d'avance, mais ça paraît compliqué. Moi, en tout cas, je vois pas qui pourrait concurrencer Pogacar, qui pourrait le battre. Intrinsèquement, c'est lui le plus fort. Et puis aussi, il y a certains coureurs dont on n'a peut-être pas parlé encore, mais qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Par exemple, il y a un coureur comme Alexei Lutsenko, par exemple, un peu bon partout, en vallon, en montagne. Lui, il pourrait tirer son épingle du jeu. Encore Esteban Chavez aussi, on en a pas parlé, ou Cepeda aussi. Alors là, Cepeda, ça va nous rappeler des mauvais souvenirs, hein, pour ceux qui se souviennent de ce Giro enflammé de l'année dernière avec un Thibaut Pinot qui a remporté le maillot de la montagne. Ou un coureur comme Matteo Trentin, par exemple, qui pourrait jouer, il a de belles qualités. Donc, est-ce que ce Giro aussi au niveau des étapes ne serait pas ouvert en général? Est-ce que des coureurs qu'on n'attend pas forcément pourraient tirer leur épingle du jeu et aller chercher une victoire d'étape prestigieuse sur le Giro?
Ah, ce qui est sûr, c'est que derrière Pogacar, je vois un petit groupe de 4-5 coureurs avec Caruso, avec Thomas, avec O'Connor, avec De Brooks, Bardet. Notamment, je retire vraiment ces 5-là du lot, peut-être Luke Plat. C'est un peu compliqué, mais c'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais je vois vraiment ce groupe-là. Et par contre, pour le top 10, la 8, 9, 10, ça va être super ouvert. S'il y a des noms que je peux ressortir, par exemple, Matteo Fabreux, ça pourrait être qui pourrait être intéressant, qui sera leader pour cette team Polti Cometa. Alors, je sais pas avec quel objectif il vient, si l'objectif c'est une étape ou si c'est potentiellement un bon classement général. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est tellement ouvert que Fabreux, Storer, j'ai envie de mettre Pellizzari, même si c'est vrai que voilà, premier grand tour, ça peut être compliqué à tenir les 3 semaines. Je voulais mettre aussi Ewan Kostiou, mais qui a perdu 2 minutes 10. Bon, pour son premier grand tour, il ira peut-être plus chercher une étape, même si le top 10 reste toujours ouvert à 2 minutes 10. Je pense que il saura faire aussi des différences pour aller chercher du temps dans les étapes de montagne et pourra vite remonter dans ce top 10 qui sera clairement très 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 ouvert et ça pourrait peut-être même être une super bataille pour une des places qui, je veux dire, ne le sont pas d'habitude. Même si voilà, on a un top 10, on suit toujours un petit peu le top 10 surtout, mais je pense que ça pourrait être encore plus intéressant avec des coureurs qui pourraient être parfois irréguliers. Voilà, ça pourrait avoir une belle bataille, belle surprise. Et donc, ouais, j'ai une partie de ce classement, une partie de la fin du top 10 qui m'intéressera vraiment pendant ces 3 semaines.
Ouais. Et puis alors, on va revenir côté français aussi. Est-ce que pour toi, les Français ont un rôle clé à jouer sur ce Giro? Est-ce que, alors moi, j'avais entendu la, comme d'habitude avant chaque grande course, la très intéressante échappée de Nicolas Fritsch, ancien coureur professionnel et consultant pour Eurosport, et qui disait que les Français pouvaient prétendre à au moins 4 victoires d'étape sur ce Giro. Est-ce que c'est pas un petit peu ambitieux? Alors, il faut avoir de l'ambitieux, mais au vu du parcours et surtout au vu de Pogacar qui peut quasiment gagner toutes les étapes à part celles qui seront jouées au sprint par les purs sprinteurs et là où il y aura, je pense, pas débat. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux?
4, ça fait un peu beaucoup. 4. Après, c'est vrai qu'il y a les profils, en fait. Hein, quand on voit Alaphilippe, quand on voit Laporte, si Bardet venait à vraiment ne pas être bien, peut-être... dans une échappée, hein, Romain Bardet sera forcément favori. Si ça va au bout, il peut aller chercher des étapes. Si ça se passe pas bien, alors on espère que ça se passera bien évidemment. Mais voilà, dans des échappées.
Pas de maladie, s'il vous plaît.
Pas de maladie. Mais s'il perd beaucoup de temps en première semaine sur une échappée, il peut certainement aller chercher même plus qu'une victoire d'étape, parce qu'il pourrait facilement résister derrière, résister au coureur de derrière. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a une équipe française qui est plus qu'en forme ces derniers temps, avec des coureurs qui sont plus qu'en forme, avec les frères Paré-Peintre, Baudin qui a fait un super tour du Pays Basque et qui a fait une superbe étape aujourd'hui. Bastien Trochon aussi, qu'il ne faudra pas oublier.
Oui, c'est sûr. Même André Van Dramé aussi, hein, qui peut se faufiler dans un sprint aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai. Non mais vraiment côté français, il y a de quoi faire. Maintenant 4 étapes, je sais pas. Et Ewan Kostiou, hein, c'est vrai que Ewan Kostiou dans une échappée sera aussi parmi les favoris pour aller au bout. Donc non, c'est sûr que il y a de beaux noms. 4, ça fait beaucoup. Je pense que si on s'en sort avec déjà 2, ça sera plutôt pas mal. Il faut pas oublier pour l'instant. Ouais, on est quand même les Français sont leaders de la montagne avec Calmejane et leader du maillot blanc avec...
C'est ce que j'allais demander. Est-ce que les Français pourraient peut-être pas jouer comme l'année dernière? Alors Thibaut Pinot, son but était bien évidemment de gagner une étape sur ce Giro, mais pourquoi pas aller chercher ce maillot de la montagne qui peut être un bel objectif. Alors l'année dernière, bien sûr, l'objectif de Pinot c'est de remporter une étape et donc ça il a été voué de malchance aussi. Et puis il faut aussi noter quand même qu'il y a, pour ces étapes, elles vont se faire, ces étapes dites de pour baroudeurs, elles vont quand même se faire rares, même s'il y a la place pour, parce que si tout se passe bien, on réserve 6 étapes pour les sprinteurs, 2 dans le contre-la-montre, et côté français, il n'y a pas des masses, des grosses arrivées au sommet, mais il faudra aussi noter les enchaînements, il va falloir les tenir, ces jours de course, donc attention à ne pas être non plus trop ambitieux, parce que ça peut vite aller dans le mauvais sens peut-être, donc, et encore grosse concurrence, on en avait parlé autour de ces étapes dites de pour baroudeur.
Non mais c'est vrai que c'est un maillot de la montagne, si on s'en sort avec une victoire et un maillot de la montagne, bien évidemment que le bilan sera positif. Je pense que même si on peut en attendre plus, le bilan sera quand même positif. Si Romain Bardet vient chercher en plus un top 5 au général, peut-être un top 3, je pense que le bilan peut être très positif à la fin de ce Giro et on suivra ça de très près.
Oui. Moi je dis attention à ne pas être trop exigeant avec Bardet, et puis surtout il n'a pas cette pression du général, Bardet. Oui. De toute façon sa carrière entre guillemets elle est faite, on va dire.
Il y a les lignes au palmarès.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et même si à quelques détails près, c'est vrai qu'il aurait pu en voir, ça aurait pu être encore mieux. Il y a beaucoup de deuxième places qui sont peut-être un peu frustrantes. Mais oui, c'est sûr, c'est.
On y repensera toujours à ce tour 2017, hein, où il était capable de battre les meilleurs.
Hein. On repensera au championnat du monde. On repensera au championnat du monde derrière Valverde. Ah voilà, et on repensera à pas mal de choses. Mais c'est sûr, c'est que oui, c'est que il y avait une interview sur France TV qui était assez sympa.
Avec Warren, oui.
Ouais, où voilà, on sent que voilà, il n'y a plus vraiment cette pression, mais il a été très, très longtemps le seul coureur à pouvoir nous faire un peu plus rêver, mais voilà, le seul coureur où on a vu peut-être plus une lueur d'espoir en se disant, bah voilà, ça va, on va aller chercher un Tour de France, on va aller chercher un grand tour, et bon, ça ne s'est pas fait. Il y a eu cette période de basculement vers DSM où. Enfin, finalement, ça lui a redonné confiance. Il est revenu avec d'autres ambitions, je pense, une autre mentalité. Je pense qu'il a aussi beaucoup évolué dans sa mentalité, dans sa façon d'aborder les courses.
Et puis même aller chercher une victoire d'étape aussi, ça serait bénéfique pour lui. Même chose, ça serait comme un Julien Alaphilippe. Ça serait aller réussir à avoir une victoire sur les trois grands tours. Ça serait exceptionnel.
Ouais, il crachera pas dessus, de toute façon. S'il peut aller chercher... Et puis même, il aurait la possibilité d'aller peut-être même en chercher une, deux, si jamais il perd beaucoup de temps et que ben l'objectif, c'est
plus général. Un maillot de la montagne aussi, ça peut se faire aussi. Hein.
C'est ça, il y a beaucoup d'autres objectifs que le général. Si le général, ça passe pas, et ben ça passe pas parce que ben il n'y a peut-être pas la forme, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que ben il y a peut-être plus, je ne vais pas dire la même âne, parce que je pense qu'il... Il a toujours cette âne, cette envie de gagner, parce que ben voilà, ils arrivent avec une préparation, ils arrivent avec des objectifs en tête, mais je pense qu'avec sa façon d'aborder les courses de plus en plus, il se focalisera pas sur ben voilà, mon objectif c'était le général, voilà maintenant qu'est-ce que je fais. Je pense qu'il a d'autres plans en tête. Il sait déjà que si ben, ça se passe mal, il y aura de quoi. Il y aura de quoi faire un beau Giro derrière, donc voilà, on attend, je pense, beaucoup des victoires d'étape, parce que bah, finalement, un top 5, c'est bien, un top 3, c'est bien, mais à la fin, est-ce qu'on retient pas finalement peut-être que le vainqueur, alors qu'un triple vainqueur sur chaque... un coureur vainqueur sur les trois grands tours, voilà, on le retiendra plus, ça c'est sûr.
Oui, exactement. Alors aussi à noter une petite chose, une petite anecdote sympa que j'avais envie de noter, c'est la participation de Domenico Pozzovivo au Giro, 41 ans, qui il me semble devient le recordman de participation au Giro si je ne raconte pas de bêtises, 18e participation pour lui.
Ah c'est super, hein, bah, c'est le coureur qui à chaque fois n'a pas de contrat au début de saison, puis on trouve un en mars avec cet objectif du Giro où on pense à chaque fois capable de venir se battre pour le général. Il nous avait surpris il y a 2-3 ans. Et c'était un peu coureur qui voilà, venait avec voilà, un peu, je pense, cette envie de voilà, disputer la course, de se donner à 100%. Et puis ben, voilà, il ne calcule pas, il vient sans pression, il a 41 ans. Il avait voilà, 40, 39, 38 sur les éditions précédentes, et c'est un coureur qui voilà, courait assez avec le cœur. Voilà, il se donnait, c'était son objectif de la saison, et puis on ne voyait plus trop forcément derrière. Donc voilà, ça fait plaisir de voir cette start list dans une bonne équipe en plus, hein, qui a dans ses rangs Giulio Pellizzari, le deuxième du Tour de l'Avenir l'année dernière, et qui a fait une belle étape aujourd'hui. Donc non, franchement, ça fait toujours plaisir de le voir sur une start list sur le Giro.
Oui, exactement. Allez, on va finir ce Giro par un petit pronostic. Mon cher Tom, tu verrais qui en tête à la fin de la semaine?
Au général?
Oui, au général.
Je veux dire Pogacar sans être très innovant, sans être très 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 amusant. Bah, je veux dire Pogacar. Voilà, je veux dire Pogacar.
C'est compliqué à dire. Ça peut paraître évident comme ça, mais bah, Pogacar, oui, risque de faire le show. Mais après, peut-être à pas forcément vouloir assumer le poids de la course, parce que comme on l'a dit, bah, il a pas l'équipe forcément pour faire tourner, pour comment dire, pour assumer pas le point de la course. Alors. Moi, je verrais bien, bah, honnêtement, je verrais bien quelqu'un d'autre en tête. Et moi, j'opterais bien pour un Geraint Thomas, assez à l'aise sur le contre-la-montre. Il tient bien, là, il fait une belle étape aujourd'hui. Donc, moi, je vois bien Thomas accrocher le maillot rose.
Ouais, c'est sûr. Après, en fait, s'il n'y avait pas cette sixième étape, ce contre-la-montre, je pense que j'aurais peut-être pas dit Pogacar avec autant d'assurance. Maintenant, c'est vrai que ces étapes-là, comme je dis, c'est vraiment des étapes où il peut vraiment mettre à mal les autres. Parce que dans une course d'un jour sur ce profil-là de la sixième étape, il est tellement favori. Il est tellement favori que voilà, j'ai un peu du mal à me détacher de cette étape. Et puis, ce contre-la-montre de 41 km. Il sera obligé de le faire à fond, peut-être pas à 200%, mais peut-être un peu moins. Et,
Le vainqueur du contre-la-montre d'ailleurs, pour toi? J'hésite, hein, entre Pogacar et Ghana, franchement.
ouais, ça peut jouer. Tout dépend de Pogacar s'il fera ce contre-la-montre à 100%. Je pense que oui. Parce que c'est pas du genre à ne pas faire les choses à
Non, non,
100%.
non.
Mais c'est vrai que s'il est à 100%, j'ai du mal à voir Ghana aller chercher dans la bosse s'il a pas beaucoup d'avance à l'intermédiaire, enfin au pied du moins de cette bosse, quoi. Donc je vais partir sur Pogacar quand même, je crois, si toutes les réponses sur
Moi,
Pogacar.
franchement, j'ai envie de dire Ghana. Franchement, je sens qu'il va faire une belle performance. Et puis, ton vainqueur d'étape à coup sûr, à part Pogacar.
Pour demain?
Non, pour la semaine, pour les 9 jours, ton vainqueur d'étape. Tu penses qu'il va gagner?
J'ai envie de mettre Jefferson Cepeda.
Cepeda.
Ouais, j'ai envie de mettre Cepeda. Bon, au regret de l'année dernière. C'est embêtant d'en parler, mais c'est un coureur qui peut franchement aller chercher une belle étape. Typiquement demain, si Pogacar se désintéresse, alors je vais pas dire se désintéresse, mais peut-être pas forcément envie de jouer la gagne, ce qui serait possible. Et bon, je pense que ce serait un nom assez crédible pour aller chercher une victoire d'étape durant ces jours.
Moi, je dirais Luc Plap. Je vois bien Luc Plap, ouais, faire une belle performance.
Tout dépend de la façon dont il aborde le. Enfin, tout dépend de comment il sera au général, quoi.
Côté sprinter, tu verrais qui pour remporter une étape? Il y a deux occasions pour les. Il y a une, deux, ouais, deux, deux, ouais, deux occasions pour les sprinteurs presque à coup sûr de gagner. Je dirais plus la quatrième étape entre Akuy Terme et Andorra. Je dirais plus cette étape, ouais, pour les sprinteurs, vu que le lendemain de l'étape 2, ça va être compliqué pour les sprinteurs de se mettre dedans, peut-être après la grosse étape de montagne de dimanche. Donc sprinteur qui peut gagner une étape sur cette semaine.
J'ai envie de mettre Merlire parce que je pense que avec alors je vais dire le peu d'occasions sûres qu'il y a d'aller chercher des victoires d'étape, la Quick-Step telle qu'on la connaît dans les arrivées massives, voilà, elle va assurer. Enfin, c'est typiquement une équipe qui déçoit vraiment quasiment jamais sur les arrivées massives, et avec un sprinter qui, Je pense ne pas trop m'avancer, mais il fait partie au moins du top 2 mondial.
C'est l'assurance touriste, quoi, je pense.
Bah, c'est ça. C'est quand on voit l'équipe dans l'équipe dans laquelle il est, qui est habitué à ses sprints massifs, avec une équipe autour de lui. Je pense notamment à Bert Van Lerberghe qui fait un super boulot dans les sprints. Ils passeront pas à côté de ces occasions sûres de sprints massifs.
Avant de Sevenant aussi, qui peut faire un beau travail aussi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Van Sevenant, Luc Lampertier aussi, qui pourrait bien emmener hein, sur ces sprints-là. Donc, ouais, Merlier, je pense que voilà, il y a un peu cette aura de killer un peu pour aller chercher une étape.
Et ta grosse cote
sur une arrivée au sprint comme ça?
En général, oui, tu peux dire au sprint aussi.
Ouais, au sprint, j'ai envie de mettre Tobias Lund Andresen. Andresen, qui sort d'un beau tour de Turquie. On sait que Jakobsen, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Je pense que, notamment dans les sprints massifs, il y a toujours ce petit souvenir du Tour de Pologne où dès qu'il frotte, il a tendance à s'arrêter, ce qui peut parfois être dangereux d'ailleurs, et qui pourrait laisser sa chance à Andresen. Alors, je ne pense pas que sur une étape où il n'y a pas de...
Gros risque.
Ouais, voilà, je pense qu'il n'y a pas du tout de dénivelé. Jakobsen sprintera. Maintenant, je pense qu'Andresen pourrait vraiment être une belle surprise. Sinon, en général, une belle surprise. Il y a de beaux noms à dire dans les belles surprises. Franchement, j'en ai pas comme ça. En réfléchissant comme ça.
Réfléchis, et puis moi je vais dire mes grosses cotes alors, et puis mon favori pour le sprint. Alors, favori pour le sprint, je pense que Koj va gérer, je pense, au moins une des deux étapes. Et puis ma grosse cote, ce serait Caleb Ewan. Je pense qu'on ne l'attend plus autant qu'avant, Caleb. Caleb, oui, c'est pas qu'il a régressé, mais voilà, on l'attend moins. Je pense qu'on lui met moins de pression parce que voilà, il avait toujours en tête cette idée de vouloir absolument gagner une étape partout où il passait sur le tour, sur les tours, en tout cas sur les courses auxquelles il allait. Donc, je pense que oui, en tout cas sur le sprint, ça peut être une belle grosse cote et ça serait une belle manière de reprendre confiance. Et puis en général, moi ma grosse cote, je mettrais Matteo Trentin pour cette équipe Tudor, ouais, qui peut sortir, tirer son épingle du jeu.
Ouais. Non, moi, j'ai trouvé ma petite grosse cote là sur cette semaine. J'ai envie de mettre Lorenzo Milesi. Alors bon, c'est une grosse cote parce qu'il est un peu moins en forme, parce qu'il a changé d'équipe, mais il avait fait un beau début de Vuelta l'année dernière.
Ouais.
Alors il avait pris le maillot sur le contre-la-montre. Oui, non, il n'avait pas fait un beau début, il était tombé sur la deuxième étape, mais il avait je pense de bonnes chances. Il était peut-être plutôt en forme et voilà, ça pourrait être une belle surprise sur cette semaine.
Eh bien, ok, bah ça roule. Alors, juste avant de terminer, on va faire un petit point sur la Vuelta féminine qui a lieu aussi. Petit point sur la course féminine avec la victoire d'Elvita Music sur la sixième étape devant Demi Vollering, la leader de la course. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis petit point aussi sur le classement général, vu que Juliette Labousse, la française, est actuellement quatrième à seulement 30 secondes de la troisième du classement général, Marcus Regiane. Demi Vollering est actuellement en tête de la course avec 52 d'avance sur Elisa Lombogorni, et puis Elvita Music, dans sa bonne lancée, est actuellement sixième du classement général. Donc les Françaises qui arrivent quand même à bien performer sur les courses, à bien figurer. Et puis aussi à noter la victoire de Marianne Vos aujourd'hui, qui revient au plus haut niveau, elle qui avait mis du temps à revenir. Et puis là, on sent la Marianne Vos de d'habitude, entre guillemets, qui domine largement les courses au sprint et puis elle est actuellement leader du classement des points. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Thierry, à moins que tu aies un petit dernier mot à rajouter.
Non, je pense qu'on on a fait le tour de ce Giro.
Ouais. On peut noter alors aussi les quelques courses qui peuvent être intéressantes à suivre. Moi, il y en a une en tout cas pour laquelle je me passionne, c'est le Trobroléon. C'est une très belle course, franchement, avec les chemins de terre pour la coupe. Donc c'est la Coupe de France de cyclisme, et moi je trouve intéressant à chaque fois de suivre de toutes les équipes, les équipes entre guillemets du bas de l'échelon entre guillemets qui viennent se confronter parfois aux meilleurs. Il y a 9 équipes World Tour quand même qui viennent se confronter au meilleur. Donc voilà, je trouve ça intéressant de toujours suivre cette Coupe de France de cyclisme.
Voilà. Avec de bons noms en plus. Hein.
Ouais, il y a des beaux noms. Benoît Cosnefroy, Luca Mozzato, Arnaud Dely d'ailleurs qui revient en forme, Brett Van Moor, Coquard, Zingle, Marot, Anthony Turgis, Abrahamsen, etc. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Voilà, écoutez, je pense qu'on aura fait le tour de l'actualité vélo. Je pense qu'on aura bien fait la preview en retard, certes, de ce Giro, avec la victoire de Narvaez sur la première étape, et puis on a hâte de suivre la suite, hein, mon Thierry.
On a hâte de suivre la suite, ça va être sympa, il y a de belles étapes là, sur cette première semaine, donc ouais, hâte de voir la suite, hâte de demain, pour voir ce que nous réserve cette arrivée au sommet, et on espère un peu de spectacle et une victoire française aussi.
Exactement. Merci mon Thierry d'avoir été présent, c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous.
Ah, toujours un plaisir aussi d'être là, et puis on se revoit pour faire un débrief de la première semaine.
Je pense que c'est envisageable de faire un petit débrief de la première semaine. Alors il me semble jour de repos, je vais vérifier ça, le jour de repos de la première semaine c'est dimanche pour l'arrivée à Napoli, donc je pense qu'on peut se donner rendez-vous dimanche prochain.
Ouais. Non, peut-être pas pour moi. Je laisserai peut-être ma place.
D'accord.
Ma place pour cette fois-ci. Voilà, je prendrai mon jour de repos aussi.
Et ben ça marche, mon Thierry. En tout cas, merci d'être venu. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Et puis on va faire un petit coucou aussi à notre autre chroniqueur qui n'a malheureusement pas pu continuer parmi nous. Problème de connexion. Donc on te salue, Antoine. Petit coucou. Voilà. Pour toi Antoine, merci d'avoir été présent, d'avoir apporté ton analyse au début, et puis merci à vous qui nous écoutez en podcast, hein. Toujours un plaisir. Alors je vais vous donner les statistiques du dernier barbecue vélo pour Liège, Bastogne-Liège. C'est assez impressionnant, en tout cas sur YouTube, je vais vous dire ça tout de suite, on est à plus de 160 écoutes, c'est assez impressionnant. D'ailleurs on va faire aussi un petit coucou à Rulio qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce soir, Jules Cotalorda. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir écouté un petit barbecue vélo. Et n'hésitez pas à partager la chaîne. Et si vous voulez être chroniqueur aussi, bien sûr, de barbecue vélo, la porte est ouverte. C'est comme ça que des gens comme moi ou comme Antoine ont pu venir en découvrant la chaîne. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter dans les commentaires, à mettre un petit commentaire aussi si vous avez apprécié. Et puis voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine vélo, bonne reprise à ceux qui vont revenir après les vacances. Et puis, à bientôt.